La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à vous tous ici et bienvenue particulièrement à la famille de celle qui va recevoir le baptême aujourd'hui et dont je vous dirai le prénom tout à l'heure. Nous allons vivre ce temps de baptême avec beaucoup d'émotion après un parcours de cette jeune baptisée qui a cherché le lieu où elle pourrait vivre la communauté avec ceux qui pourraient avoir une expression de foi commune à la sienne. Et nous avons donc le plaisir de l'accueillir aujourd'hui et de la recevoir dans cette église où elle nous rejoint dans la prière et dans la foi. Bienvenue à sa famille, bien sûr, qui l'entoure et qui est avec elle ce matin. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez par le biais des réseaux sociaux, par Internet, qui êtes restés au sec, peut-être, ce matin, parce qu'il y avait de quoi avoir envie de rester au sec ce matin. Nous espérons qu'aucun de vous n'aura de problème d'inondation ce matin, parce que c'était un peu le déluge. Mais ce ne sera pas le texte du jour, ce n'était pas prévu. Je vous invite à la prière en entrant dans ce temps de culte. Seigneur, nous sommes rassemblés ce matin dans cette église. Permets que nous soyons une communauté de prière et de joie autour de celle qui va recevoir le signe de ta grâce. Que ta parole puisse rayonner au-delà des murs de ce temple et que nous puissions annoncer ton évangile comme tu le souhaites, dans l'esprit que tu insuffles en nous. Réunissons-nous dans la communion fraternelle et chantons maintenant avec la liturgie qui est au début des psautiers français. Vous avez les réponses pour ceux pour qui ce serait la première fois ici. Seigneur, avec cette louange de saint Augustin. Lorsque j'aime mon Dieu, mais aussi ciel et terre et tout ce qu'ils contiennent, les voici me disant de partout de t'aimer. Mais qu'est-ce donc que j'aime quand je t'aime? Non la beauté d'un corps, ni le charme d'un temps, ni la brillance de la lumière, cet ami de mes yeux d'ici-bas, ni les douces mélodies des chants de toutes sortes, ni les fleurs, ni les parfums, des aromates, la suave odeur, ni la manne et le miel, ni les membres ouverts ou charnels étreintes. Non, ce n'est pas ce que j'aime lorsque j'aime mon Dieu. Et pourtant j'aime une certaine lumière, une certaine voix et un certain parfum, un certain aliment, une certaine étreinte. Lorsque j'aime mon Dieu, lumière, voix, parfum, aliment, étreinte, de l'homme intérieur qui est en moi est présent, où brille tout mon âme, ce que l'espace ne peut enfermer, où résonne pour elle ce que le temps ne peut voler, où s'exhale un parfum que le vent ne dissipe, où se savoure un mets que la voracité ne réduit, où se noue une étreinte que la satiété ne dessert. Oui, voilà ce que j'aime lorsque j'aime mon Dieu. Louons le Seigneur avec le psaume 84, les strophes 1, 2, 3 et 4. Dans ta maison, je suis heureux. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Voici la volonté du Seigneur pour nous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Seigneur, tu sais de quelle miséricorde nous avons besoin. Tu sais nos obscurités, nos silences, nos oublis, nos vanités. C'est à chacun comme un secret que tu les révèles. C'est à chacun comme un secret que tu les pardonnes. C'est à chacun comme un secret que tu donnes l'ordre de se relever et de marcher pour un nouveau service, pour un nouvel amour. Aussi, c'est avec confiance que nous te disons « Aie pitié de nous, Seigneur. » Amen. Le Seigneur nous redit sa grâce, son amour éternel pour nous, son amour inconditionnel pour nos vies, à travers les paroles du prophète Ésaïe. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur, et je te garde ma miséricorde. Chantons notre reconnaissance en nous levant. Pardon, Aurélia. Je vais maintenant accueillir celle qui s'approche du Seigneur en demandant le baptême. Manon, tu as demandé à recevoir le baptême avec ceux qui t'entourent et que tu as voulu auprès de toi dans ce moment important. Venez, approchez-vous. L'Église aujourd'hui accueille ton souhait avec joie et se réjouit de vivre ce moment ici avec toi. Manon, veux-tu confesser ta foi devant cette assemblée ? Oui ? Alors je te laisse la parole maintenant avec les mots que tu as écrits. Oui, tu peux.
Pardon. Je crois au visible et à l'invisible, et je crois en l'éternel. Malgré mes limites et mes doutes, je crois que Dieu est présent et qu'il est guide de nos vies. Sa lumière m'éclaire, il me donne sa force dans mes faiblesses et me protège du mal. Je crois en sa bienveillance et je veux comme lui partager la mienne. Je veux aimer mon prochain comme moi-même. Je crois en Dieu qui m'apporte la sagesse et l'espoir, lui qui m'a tant aidée jusqu'à ce jour. En Dieu, je trouve une vie sereine et remplie de joie. Amen.
Voici la volonté de Jésus-Christ. Je vous invite à vous asseoir peut-être pour le moment, ça va être plus confortable pour vous tous. En revanche, vous restez debout. Si vous voulez venir près de moi, venez par ici pour que voilà, on ne tourne le dos à personne. Voici la volonté de Jésus-Christ pour son Église. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit le Seigneur. Manon, tu vas être baptisée au nom du Père qui te donne le souffle de vie. Tu vas être baptisée au nom du Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour toi et qui t'appelle à son service. Tu vas être baptisé au nom du Saint-Esprit qui fait naître en toi la foi, l'espérance et l'amour. Il y a de l'eau ici, et c'est de l'eau tout à fait ordinaire. Mais avec la parole de Dieu, cette eau devient l'eau du sacrement du baptême, eau d'une nouvelle naissance avec Dieu. Chaque jour, notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul, et qu'ensemble, nous vivons de son amour. Manon, veux-tu recevoir maintenant le baptême ?
Oui.
Alors, tu peux retirer ton masque, peut-être. Je vais vous inviter à entourer Manon, peut-être. Voilà. Ça va aller ? Voilà. Alors, peut-être monsieur, voilà. Monsieur qui est le frère de Manon. Voilà. Alors, venez ici. Ici voilà. Manon, tu te penches ? Manon, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à vous lever pour être témoin du baptême. Manon, pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Je crois que la marraine de Manon voulait prendre la parole.
ma chère petite Manon.
Quel allez, bonheur d'être marraine. Un tout petit peu plus fort pour que tout le monde en profite, oui, si vous voulez.
Ma chère petite Manon, quel bonheur d'être ta marraine aujourd'hui. Je suis tellement fière de ce lien symbolique qui nous unit à tout jamais. Je serai présente pour te conseiller et te guider dans les moments importants de ta vie. Je te souhaite d'être pleinement heureuse. Je t'aime très fort.
Merci beaucoup. Manon, tu vas venir avec moi voir cette assemblée que tu as déjà vue plusieurs fois ici, évidemment. Voici Manon, elle est votre sœur dans la foi. Vous êtes sa famille spirituelle. Vous prierez pour sa famille et pour elle. Et si jamais Manon, un jour, dans les vicissitudes de la vie, venait à se séparer de cette communauté, vous affirmerez que qu'elle pourra toujours y retrouver sa place. Ce sera le signe pour elle de l'amour inconditionnel de Dieu. Voilà Manon, tu as une nouvelle famille de façon maintenant sûre et vraie. Je vous invite à la prière pour remercier le Seigneur pour ce moment. Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Manon qui vient de recevoir le signe de ta grâce. Nous te prions pour elle et pour ses proches. Nous te remercions pour notre propre baptême et pour la fidélité de ton amour pour chacun. Amen. Je vous invite à chanter ensemble pour Manon ce matin. Seigneur, dirige et sanctifie, le 204 dans les recueils louanges et prières. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Avec Manon, nous avons choisi de partager avec vous ce matin ce texte de l'Évangile de Luc, au chapitre 10, les versets 25 à 37. Un spécialiste de la loi se leva et lui dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment lis-tu ?» Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui voulut se justifier et lui dit, et dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains de bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits ? Il répondit, « C'est celui qui a montré de la compassion envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Je vous invite à chanter le cantique 178, les strophes 1, 2 et 3, dans le louange et prière. Et nous nous levons. Prions ensemble. Seigneur, bénis notre écoute. Permets que nous soyons attentifs à ta parole dans nos vies d'aujourd'hui. Que les témoignages anciens qui nous sont parvenus prennent toute leur actualité dans ce monde où nous avons tant besoin de cet amour que tu nous donnes. Amen.
Merci Aurélien pour ce chemin de Jérusalem à Jéricho. L'histoire du bon samaritain est très connue. Le terme même est passé dans le langage courant pour signifier la générosité de celui qui aide autrui avec largesse. Mais cette histoire n'est pas seulement une histoire de bonté et de générosité. Elle nous parle de vie éternelle et donc de salut. Dans l'évangile de Luc, cette histoire arrive à un moment où Jésus est tout à sa joie de voir revenir les 72 disciples qu'il avait envoyés pour annoncer la bonne nouvelle du salut dans les villes alentours. Il les voit revenir heureux parce qu'ils ont réussi à prendre l'ascendant sur le mal au nom de Jésus partout où ils sont passés. Alors il est transporté d'allégresse pour cette délégation réussie, dit l'évangile de Luc. Et c'est là qu'arrive le rabat-joie, le gâte-sauce, le fâcheux, le spécialiste de la loi avec son mauvais esprit et sa provocation. Vous savez, quand vous avez vécu un moment de communion extraordinaire, inexplicable de beauté et de fraternité, et qu'on vient vous dire « Mais de quel droit avez-vous fait comme ci alors que la règle disait de faire comme ça ?» Enfin, vous voyez ce genre de situation terrible, comme si la joie faisait peur, comme si, quand tout va bien, par pure grâce, il fallait vite revenir à la logique du jugement et chercher des coupables derrière les gens heureux. C'est dans cette histoire le comportement des 72 envoyés du Christ qui est jugé par l'intervention du spécialiste de la loi, en fait. De quel droit, eux qui ne sont pas spécialistes des Écritures, eux qui ne sont ni des scribes ni des pharisiens, qui ne sont pas issus d'une longue lignée de Lévites, pourraient-ils annoncer des temps messianiques à ce monde ? Toutefois, eux, les petits, comme dit Jésus, sont ceux qui ont reçu la révélation et qui ont bien voulu croire que l'éternité commençait aujourd'hui avec lui, mais aussi avec eux. Jésus leur dit « Heureux les yeux qui voient ce que vous, vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous, vous regardez, et ils ne l'ont pas vu. Ils ont voulu entendre ce que vous entendez, et ils ne l'ont pas entendu. » Jésus prononce donc une béatitude sur ses disciples qui ont pu annoncer le royaume de Dieu par leur seule foi, et il leur promet ainsi la vie éternelle. Et c'est justement le problème du spécialiste de la loi qui demande « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Avec sa question, il pose le problème de la légitimité et de l'élection. Qui sera sauvé? Et pour quelle raison? Jésus, non sans humour, le renvoie à ses lectures préférées, donc à la loi contenue dans le livre du Lévitique, et lui demande « Comment lis-tu ?» En bon élève, certain d'arriver à mettre à l'épreuve celui qu'il cherche à provoquer, le spécialiste cite de mémoire des commandements qui résument toute la loi et qui établissent la relation entre Dieu et les hommes par le même amour. Il a bien appris sa leçon, mais il ne voit pas et n'entend pas ces commandements. Il se contente de les lire sans recevoir l'amour qu'ils contiennent. Et c'est au moment où il cherche à se justifier que, dans une ultime provocation, et qui est mon prochain, il dévoile son incapacité à reconnaître le règne de Dieu, cette vie éternelle dont il croit pourtant être le spécialiste. La parabole du bon samaritain est une histoire dans laquelle, de proche en proche, l'humanité se décline en une variété de spécimens. Des bandits les plus vils, qui roue de coups à un voyageur qui n'a rien demandé à personne, aux lévites et aux prêtres qui passent leur chemin sans secourir la victime, On a là l'image de la chute de notre vieil Adam, coupé de l'amour de Dieu et de ce qui l'inspire, et engendrant des enfants homicides ou un clergé hypocrite. Heureusement, il n'y a pas que cela. Il y a aussi un Samaritain qui, certes, n'est ni prêtre ni un lévite, qui connaît pourtant mieux la loi de Dieu que n'importe lequel des prêtres de Jérusalem, semble-t-il, parce qu'il ne s'est pas contenté de les lire, mais parce qu'il a mis en pratique ce qu'il a reçu d'essentiel pour sa foi. Il y a aussi l'hôtelier qui remplit son rôle, dont on ne sait s'il est lui aussi samaritain ou non, ou s'il est d'une autre religion, car peu importe ce qu'il est. L'essentiel étant qu'il joue sa partie loyalement contre les 2 deniers qu'on lui donne. C'est un homme de confiance. Rappelons-nous quand même qu'un denier est une pièce d'argent romaine sur laquelle figure l'effigie de César. Si l'hôtelier est un païen, peut-être même un romain, qui sait ? Cela veut dire que le Samaritain et le Romain sont plus dignes de confiance pour faire advenir le règne de Dieu que le Lévite et le prêtre. Et l'on dira que Jésus ne rit jamais dans les évangiles. Sur cette route qui descend de Jérusalem à Jéricho, défile, avons-nous dit, l'humanité dans tous ses états, des plus honteux aux plus heureux. Or là où l'on s'attend à trouver en la victime le prochain qu'il faut aimer comme soi-même, c'est le Samaritain que Jésus décrit comme le prochain de l'autre. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits ? Et il répondit, c'est celui qui a montré de la compassion envers lui. Alors que l'on pourrait entendre le commandement « aime ton prochain comme toi-même » comme l'appel à être le gentil du prochain, l'aidant, celui qui a la capacité d'aider, ce qui est évidemment très gratifiant, on se retrouve avec un prochain qui vient aider, qui se penche sur la victime et devient ainsi le prochain à aimer, comme si cet homme à terre, cette victime qui a besoin d'un autre humain plein de compassion pour le sauver, en fait, c'était nous. Ce qui est bien moins gratifiant. Jésus a renversé le système. Mon ami, le pasteur Vincent Hubach, qui est ici ce matin, me disait en discutant de ce texte qu'une compréhension possible de la parabole était que Jésus était représenté par les 2 hommes à la fois. Celui qui est meurtri, le crucifié, et celui qui sauve, le ressuscité. L'idée est excellente, Vincent, et je crois qu'il faut la développer jusqu'au bout et en faire le modèle de notre humanité. Le « comme toi-même » du commandement devient avec le Christ « va et fais de même ». Il n'y a plus dans la parabole le sauveur et le sauvé, mais bien 2 êtres d'une même humanité qui, en ayant une relation de prochain l'un à l'égard de l'autre, font grandir à eux deux notre humanité à tous. Le Samaritain voit en l'homme à terre l'image de sa propre fragilité. Il comprend ce que veut dire « comme moi-même ». Et s'il ne sauvait pas la victime, s'il n'en était pas le prochain, il y perdrait son humanité. Et si la victime n'avait à aimer aucun prochain qui le sauve, s'il ne pouvait compter sur personne, il y perdrait aussi l'humanité, car alors il vivrait parmi les bêtes féroces et ne trouverait autour de lui aucun être digne d'être appelé humain, comme les 2 autres. Qui sont passés très loin et qui pourtant étaient parmi les humains. Comme le spécialiste de la loi et sans provocation aucune, nous pouvons demander que devons-nous faire pour hériter la vie éternelle ? Car au moment où nous avons baptisé Manon, Nous avons rappelé que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ à quiconque croit en lui pour qu'il ait la vie éternelle. Le baptême suffirait-il à hériter cette vie éternelle sans rien faire par le seul don de Jésus-Christ de sa propre vie ? Le baptême offre une image du monde dans laquelle l'amour du prochain et la compassion pour l'autre repoussent la férocité des bêtes. En redisant le divin de nos vies, paradoxalement, le baptême nous appelle à plus d'humanité encore. De la même façon que le spécialiste de la loi ne peut pas affirmer qui de tous les hommes de la parabole sera sauvé par Dieu, mais seulement qui est le prochain de l'autre, nous ne pouvons pas juger de cette vie éternelle promise par Dieu à la place de Dieu. Et encore moins faire de nos rites, de nos religions ou de nos témoignages des attestations de notre salut, ni pour nous-mêmes ni pour les autres. Mais nous pouvons nous tourner vers nous-mêmes et mesurer si nous sommes prêts à vivre l'humanité du Christ, complètement, humainement, honnêtement. Il est des non-chrétiens qui vivent l'humanité du Christ parce qu'ils font la volonté de Dieu par foi en l'humanité, ou parfois en un Dieu qu'ils nomment dans une autre religion, avec un autre nom. Et le débat de savoir qui héritera la vie éternelle est un mauvais débat, parce qu'il nous met en concurrence les uns avec les autres, comme s'il fallait distribuer des bons points. Le problème n'est pas de quelle vie nous hériterons, mais quelle vie nous vivons avec notre prochain aujourd'hui. Cet autre, ce prochain, celui qui est en relation et qui n'est pas tout à fait autre parce qu'il est l'image de moi-même en miroir. Serons-nous des agresseurs, des hypocrites, ou bien des bienfaiteurs, des compatissants, des accueillants, des hommes et des femmes de devoir et de fraternité, dignes de confiance? Car comme le disait Manon très finement lors d'un des entretiens de sa préparation de baptême, se dire chrétien n'est pas être chrétien. Elle qui a cherché l'expression religieuse qui correspondait le mieux à sa foi profonde, sait que ce qui vient en premier lieu, c'est cette révélation de l'amour de Dieu en soi, et que seul cet amour est la mesure de nos vies, dès lors que la foi nous touche et que nous sommes mus par elle pour vivre ce qu'elle nous inspire. Heureux les yeux qui voient ce que toi tu as vu, Manon. Il ne s'agit donc pas de mettre en concurrence les acteurs de cette parabole pour savoir lequel héritera la vie éternelle, mais il s'agit de les voir tous comme des figures de notre propre humanité et d'aimer le seul qui a été capable par compassion, en partageant la passion de la victime, ce qu'il subissait, d'être le prochain qui fait advenir le règne de Dieu sur la terre. C'est en le regardant qu'il faut se dire « Va et fais de même » et se le dire à soi-même chaque jour. Amen. Je vous invite à chanter le 297 dans les louanges et prières, les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever. Voilà, je vous invite à vous asseoir pour entendre quelques annonces pour la semaine qui vient et pour ce matin même, ce midi même, où nous avons un événement très attendu. Voilà, et je voudrais saluer Monsieur André Encrevé, s'il peut se lever. Voilà, venez, venez peut-être plus près, monsieur, si vous voulez bien. Pour la fin du culte, parce qu'on n'a pas pu avant se saluer, mais venez pour que nous puissions vous saluer tous et vous remercier pour votre présence. Je laisse la parole à Aurore, notre présidente du Conseil presbytéral.
Venez, venez là, monsieur. Ne soyez pas timide.
Nous sommes redoutables pour les timides.
Je vais commencer par vous. Normalement, c'est Gilles Deveau, le président de l'association de l'entraide, qui fait les annonces chaque premier dimanche du mois. Il m'a appelé ce matin me disant qu'il est retenu en province, donc je fais les annonces. Et donc je commence par vous, monsieur Encrevé, qui avez la gentillesse de venir. Juste après le culte, restez nombreux, monsieur Encrevé nous présentera le tome 2 du dictionnaire biographique des protestants français. Donc si vous connaissez le tome 1, ou même si vous ne connaissez pas le tome 1, vous êtes le bienvenu. Restez juste après, vous allez nous aider à ranger les chaises, à se mettre en place pour vous écouter. Merci à vous. Également, ce qui n'est pas dans la newsletter, lundi matin, le groupe protestant des artistes reprend Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Avec Anne Jenkins, je vous en prie. Oui. Avec Anne Jenkins, donc lundi matin. Donc, Groupe Protestant des Artistes reprend ses activités. Également, vendredi, vous avez un concert de Philippe Maillard Productions. À nouveau, vendredi soir, sur un concert de polyphonie médiévale anglaise. Donc, Philippe Maillard me disait qu'il restait des places. Donc, n'hésitez pas à contacter Philippe Maillard Productions pour venir vendredi soir. La musique a de l'importance à l'oratoire du Louvre. Également, mardi, vous savez que nous avons lancé le mois dernier, le mardi avec Béatrice Cléromazir, puisque nous aurons un culte d'intercession avec partage de scène mardi à l'heure du déjeuner. Juste après, repas partagé pour ceux qui le souhaitent. Et encore après, pour ceux qui ont du temps ou qui rejoignent que pour l'après-midi, partage biblique. Pourquoi on fait ça le mardi en enchaînant les trois, à la fois le déjeuner, le culte d'intercession avec scène et le partage biblique? C'est pour permettre, donc dites-le à vos amis qui habitent Paris, qui habitent ou qui travaillent à Paris surtout, qui ne peuvent pas être là le dimanche, de pouvoir nous rencontrer et rencontrer aussi nos pasteurs en semaine. Parce que une des remarques qu'on avait eues pendant les journées du patrimoine, c'est que nos portes sont souvent fermées en semaine. Donc nous essayons de les ouvrir avec une activité qui est une activité fraternelle, puisque c'est la réunion d'entre nous qui fait église, c'est pas l'église en elle-même. Également le jeudi, depuis l'année dernière, nous avons lancé avec Agnès Adeline Schaeffer la pause spirituelle, qui est tous les jeudis midi. Donc vraiment, n'hésitez pas, vous qui venez le dimanche, à dire à ceux qui ne peuvent pas venir le dimanche que nous ouvrons le mardi et le jeudi à l'Oratoire du Louvre avec nos pasteurs sur des activités cultuelles. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un excellent dimanche et donc juste après, pour rester, pour écouter Monsieur André Encrevé. Merci beaucoup.
Je voudrais signaler que vendredi a eu lieu ici le mariage de Antoine et Yvan qui se sont unis ici, qui ont demandé la bénédiction de leur mariage ici même. Et nous voulons les saluer au nom de toute la communauté et leur exprimer nos vœux de bonheur. Voilà.
Et nous saluons au nom du conseil presbytéral Manon également et sa famille, bien entendu.
Bien sûr.
Et donc c'est l'offrande pour l'entraide. Hein. Soyez généreux, souvenez-vous de la prédication de Monsieur Antoine Durleman, il y a 15 jours, sur l'entraide et la nécessité d'aider son prochain. L'entraide est là pour ça. Merci. Juste, un dénommé Pierre, je ne donnerai pas son nom de famille, a perdu sa carte bleue. Donc elle est ici. Donc si quelqu'un d'entre vous a un prénom qui s'appelle Pierre et n'a pas son étui, c'est que la carte bleue est là. Donc qu'il revienne la chercher après le culte. Merci beaucoup.
Et nous demanderons les papiers d'identité. Je vous invite à la prière. Éternel, nous te prions pour tous ceux qui sont sur le chemin abattus, terrassés par une société tellement dure, exclus de tous les milieux sociaux où ils ont vécu auparavant, laissés là sur le trottoir, avec tous ceux qui passent à côté, dont nous sommes souvent d'ailleurs, et qui ne savent ni ne veulent parfois intervenir pour eux, tant cette misère est difficile à concevoir et que les moyens pour lutter contre elle sont difficiles à trouver. Seigneur, nous te prions pour eux et nous te prions pour nous. Permets que nous soyons de ceux qui s'arrêtent, de ceux qui militent, de ceux qui travaillent pour que tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces invisibles puissent trouver leur place dans notre société dite humaine. Donne-nous, Seigneur, des cœurs grands et audacieux et permets que nous soyons là dans les tout petits gestes qui rendent l'humanité présente. Nous te prions, Seigneur, pour toutes nos associations qui œuvrent et militent pour le droit de tous ces invisibles. Nous étions hier au CASP avec le séminaire annuel de cette grande association qui héberge tous ceux qui se retrouvent un jour ou l'autre au banc de la société. Donne-nous, Seigneur, d'accompagner toutes ces œuvres, d'être là et de militer avec elles, pour que jamais aucun de ces petits dont parle le Christ ne soit oublié, non pas petit par leur humanité, mais petit parce qu'ils sont devenus presque invisibles. Nous te prions, Seigneur, pour toutes nos lâchetés, toutes nos difficultés à être là où le monde nous attend pour annoncer ton évangile. Sur ce chemin de vie que décrit la parabole du bon samaritain, nous sommes tour à tour l'un et l'autre. Permet que nous soyons le plus souvent possible le bon samaritain. Nous te prions pour tous les faux-semblants, tous ces débats à n'en plus finir pour expliquer pourquoi, oui, d'accord, il faut aider les pauvres, mais pas trop quand même. Nous savons que ton évangile est radical et qu'il nous demande, en matière d'amour du prochain, de l'être tout autant. Permet que nous ne nous mentions pas trop souvent. Et ensemble, nous nous tournons vers toi, en toute confiance, parce que tu nous aideras à vivre cette vie que tu mets devant nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Cher Manon, chers tous qui êtes ici venus écouter une parole qui fait vivre, allez sur votre chemin de vie, tel que vous êtes, avec les faiblesses et les forces aussi. Et ayez confiance en Dieu pour qu'il vous donne la force de faire ce qu'il commande dans ses commandements. Le Seigneur, de toute grâce, nous bénit et nous garde. Amen.
Thank you.